Bonsoir, vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu étudiante, culturelle, politique, associative, économique ou sociale. Après une folle semaine au centre des congrès d'Angers, à l'occasion du festival Premier Plan, nous avons retrouvé notre bocal. Notre sous-marin n'est pas jaune, mais il fait bon y passer une heure tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h. Si le cœur vous en dit, venez donc causer dans l'hydrophone. Je suis Tiffaine pour vous accompagner pendant cette heure au fond de l'eau. Mon équipage change tous les soirs et en ce lundi, me voilà en compagnie de Victor, de Baptiste, d'Anne-Marie et de Julien. Salut à vous.
Bonsoir Tiffaine.
Aujourd'hui dans le sous-marin, nous allons aborder un concept très à la mode mais encore relativement obscur pour tout le monde, celui de l'économie sociale et solidaire. Pour en parler, nous recevons Thomas Zucchielli. Bonjour.
Bonsoir.
Vous faites partie de l'IRESA qui organise demain soir une soirée Zik et Zoom au Shabada. En fin d'émission, vous retrouverez comme chaque jour l'agenda et la bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Et en ce lundi, après des semaines de vacances et de partiels, on retrouve Pif et Paf, Tic et Tac, Bernard et Bianca, les inséparables Victor et Baptiste. On commence avec Victor et son billet d'humeur qui parle pacte de responsabilité.
Oui, en 2012, pour son premier meeting au Bourget, François Hollande avait fait retentir la parole d'un candidat socialiste. Rappelez-vous, je le cite. « Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, il n'a pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature, ne sera jamais élu, et pourtant il gouverne. » Mon adversaire, c'est le monde de la finance. Oui, mais ça, c'était avant, comme dirait un célèbre marchand de lunettes. En ce début d'année, où beaucoup condamnent le président pour son infidélité, il faudrait dire qui sont les véritables cocus. Sa liaison avec Julie Gayet n'est pas son seul adultère. À se demander s'il ne prenait pas ce même scooter pour aller voir le président du MEDEF. Comme le dit Mélenchon, Pierre Gattaz et Hollande, c'est du sérieux. Hollande s'est apparemment converti à la social-démocratie. Ses vœux de fin d'année et sa conférence de presse de janvier en témoignent. Son nouvel ennemi, le chômage, et son nouvel allié, le patronat. Sous l'influence plus que probable de ses conseillers économiques, le chef de l'État opère, selon certains commentateurs politiques, un virage brutal. Son objectif politique, le pacte de responsabilité aux entreprises. Dessiné par le MEDEF, c'est bien le président socialiste qu'il expose aux Français durant sa déclaration de vœux. Ce pacte promet la création d'un million d'emplois en 5 ans, en abaissant massivement les charges des entreprises. Grosso modo, c'est un cadeau que François Hollande fait au patron. En échange de ce cadeau, les entreprises utiliseraient les gains de cette réduction de charges en faveur d'une offre d'emploi plus élargie. C'est philosophiquement absurde. Le patronat n'utilisera évidemment pas cet argent pour créer l'emploi. N'oublions pas que le libéralisme patronal est par essence la recherche du profit. Jean-Claude Michéa, visant à boulet rouge sur le PS dans son dernier ouvrage, Les mystères de la gauche, pourrait bien nous expliquer que ce pacte permet au gouvernement d'accorder sa politique économique libérale avec sa politique sociale libertaire. Beaucoup à gauche, qui sans doute n'avaient pas lu Jean-Claude Michéa, tombent des nues. Pourtant, il y avait tout de même des signes très avant-coureurs. D'abord, le chef de l'État, qui durant sa campagne avait promis un rapport de force avec Merkel, s'est agenouillé devant le traité budgétaire qu'il dénigrait tant. De plus, son plus proche collaborateur économique n'est autre qu'un ancien de chez Rothschild, Emmanuel Macron pour ne pas le nommer. Ce jeune loup avait déjà auparavant raillé son président en disant que la taxation des 75% sur les hauts revenus était un Cuba sans le soleil. Certains vont même jusqu'à dire que ce serait Macron qui aujourd'hui aurait remporté la bataille idéologique, social-démocrate, en proposant lui-même à Hollande ce pacte de responsabilité. N'oublions pas que le président de la République a décoré la Légion d'honneur Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC. Une personnalité aussi reconnue pour ses liaisons avec de très influents chefs d'entreprise planétaires. D'ailleurs, des bruits de couloir le présentaient comme successeur de Jean-Marc Ayrault au poste de Premier ministre, il y a alors quelques mois. Pascal Lamy et François Hollande, c'est une longue et fidèle histoire d'amour. Ils se rencontrent par l'intermédiaire de Delors. Les deux hommes travaillent pour lui dans des clubs de soutien tels que Le Témoin, qui avait déjà pour but de créer un dialogue entre le PS et les grands patrons. Ainsi, la boucle est bouclée et Hollande se laisse aller à sa véritable formation idéologique. C'est aussi un bon moyen de faire taire cette droite à peine remise du fratricide Copé-Fillon. Raffarin a déjà approuvé la nouvelle politique de François Hollande. En effet, comment la droite pourrait-elle condamner des mesures qu'elle-même aurait mises en place ? Dans ce brouillard politique que suscite le pacte de responsabilité, viennent donc ressurgir les infidélités de François Hollande, tout comme l'affaire Dieudonné. Un très bon moyen d'étouffer le débat avec des écrans de fumée. La politique aujourd'hui, c'est une question de timing. Faire le procès d'un humoriste antisémite, annoncer sa séparation avec celle qu'on appelait première dame de France, et les Français n'y voient que du feu. Comme disait Maupassant, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, et moi-même j'ajouterais que le peuple est sourd.
Baptiste, toi, tu t'attelles aux manifestations en Ukraine.
Eh oui, ça y est, ça s'est passé ce samedi 25 janvier. Suite aux multiples échauffourées confrontant lors des rassemblements les opposants pro-européens à Kiev, face aux forces de l'ordre, le président ukrainien Viktor Yanukovych a reçu les chefs de l'opposition pour de nouvelles négociations. La situation actuelle est délicate. La crise dure depuis 2 mois et les derniers affrontements ont fait plusieurs morts. Que dire de cette nouvelle frasque? Eh bien, pour commencer, il n'y a absolument rien de nouveau à l'inventaire. C'est même du réchauffé. On nous avait servi la même recette en 2004. Souvenez-vous, les révolutions colorées. Des pays d'Europe de l'Est avides de droits, de liberté, d'occidentalisation, etc., etc. Pour comprendre l'actuelle situation de l'Ukraine, il faut remonter dans le temps. Environ 10 ans pour être exact. Et décrypter les intérêts antinomiques de la Russie et des États-Unis. En 2004, le 21 novembre, Viktor Yanukovych, le candidat proche de Vladimir Poutine, est élu à la tête de l'Ukraine. Le candidat perdant, le triste Viktor Yushchenko, avait financé un mouvement de renversement avec l'aide d'organisations américaines, de participation financière d'oligarques ukrainiens et bien sûr l'aval de nombreux États occidentaux, tels que l'administration Bush qui accompagna le projet d'une aide sympathique de 65 millions de dollars. La révolution orange s'est également accompagnée à l'ouest d'une campagne journalistique efficace, favorisant ainsi la mise sur orbite, sans mot dire de l'opinion occidentale, de Viktor Yanukovych, contraint suite au nouveau scrutin de laisser sa place au candidat pro-européen. La prise du pouvoir du camp orange ouvra donc pour l'Ukraine un rapprochement considérable avec l'OTAN et les organisations occidentales en général, ainsi qu'une conduite de ces élites à l'image de leur légitimité, qui mènera l'oligarque Yulia Tymoshenko, première ministre du clan orange, à une peine d'emprisonnement de 7 ans pour abus de pouvoir dans le cadre de contrats gaziers signés entre l'Ukraine et la Russie en 2008, ainsi qu'une défaite écrasante au suffrage de 2010 avec un score rachitique de 5,45%. La remise de Viktor Yanukovych à la tête du gouvernement en 2010 entame donc le deuxième acte de la révolution orange. Le pays est toujours déchiré entre deux camps. D'un côté, le géant américain et de l'autre, le grand frère russe partageant évidemment l'un avec l'autre des intérêts contraires sur le pays. L'ambition américaine en Ukraine est simple. Elle répond à 3 objectifs géostratégiques. S'octroyer un marché évalué comme trop protectionniste en créant un climat d'investissement favorable aux entreprises étrangères. Augmenter la force de l'OTAN en y intégrant le plus grand pays d'Europe et ainsi isoler la Russie diplomatiquement en l'encerclant pas à pas pour l'étouffer et l'empêcher d'atteindre ses objectifs. La Russie, elle, soucieuse de redevenir une grande puissance en recréant un ordre multipolaire du monde, compte bien sur les possibilités à saisir en Ukraine pour accomplir ses desseins. Après avoir perdu près de 5,3 millions de kilomètres carrés, ainsi que la perte considérable de l'Orient oriental, la Russie entend donc, comme elle l'a fait avec la Syrie, accroître sa zone d'influence en se portant comme représentant du droit international et grand frère protecteur de la souveraineté. L'utilisation de l'énergie comme moteur premier de son économie est aussi une priorité pour la Russie, qui, riche en pétrole et en gaz, entend bien devenir un réservoir énergétique pour le monde entier, y compris le Japon, l'Europe, la Chine, mais aussi les États-Unis. Mais ce qui intéresse la Russie, c'est également de redevenir une puissance navale. Et justement, à ce sujet, l'Ukraine est un pivot géostratégique capital pour la Russie. L'Ukraine se retrouve donc confrontée à un choix de civilisation déterminant. Depuis 3 ans, elle tente de reprendre place dans les bons papiers de la Russie, en offrant, entre autres, une place en Crimée à la flotte russe, en facilitant la communication commerciale du gaz et du pétrole russe vers l'Union européenne, et en devenant un rempart à l'absorption complète de l'Europe dans l'OTAN. De toute façon, personne n'y renoncera, l'enjeu y est trop grand. Tout comme pour la Russie, la Libye, l'Irak et les autres pays martyrs, la technique reste la même. L'actuel président ukrainien, qui depuis son refus de signer l'accord d'intégration en novembre dernier, est accusé de mener une politique anti-européenne. Il va donc devoir affronter les foudres de l'Occident. Faut dire que le malheureux l'a quand même bien cherché en tentant d'éviter à son pays les lourdeurs des réformes structurelles exigées en retour par les Européens. Privatisation massive, réduction drastique des dépenses de l'État et de l'emploi public, remise en cause de la protection sociale et du droit du travail. Un peu taquin sur les bords, Viktor Yanukovych préféra même, en adéquation avec son programme électoral, donner priorité aux relations avec la Russie.
Qu'est-ce qui attend donc Viktor Yanukovych ?
Eh bien, peut-être le même schéma qu'en 2004, puisque l'opposition n'a pas de majorité au Parlement. Elle mise tout sur la révolte et les participations substantielles d'organisations pro-occidentales. Les représentants de l'opposition, toujours bien cossus, vont donc tout mettre en œuvre pour déstabiliser le régime souverain. Le problème, cette fois, semble que les apprentis sorciers sorciers ont décidé d'intégrer aux manifestants libéraux de fulminants nationalistes générant beaucoup de violence, ce qui pourrait entraîner par la suite de plus lourdes complications.
Merci Victor et Baptiste pour ces billets d'humeur du lundi. On va marquer une première pause musicale dans ce sous-marin avec Public Service Broadcasting Spitfire.
The birds fly a lot better than we do. See how they wheel and bank and fly? Perfect. And all in one. Wings, body, tail, all in one. Someday, I'm going to build a plane that can be just like a bird. Always stretching up for something that's just out of reach. But I'll get it. After all, what I want isn't as easy as all that. I've got to do 400 miles an hour, turn on a sixpence, climb 10,000 feet in a few minutes, dive at 500 without the wings coming off, carry 8 machine guns.
Hello, Hunter Leader, Hunter Leader. Death is approaching Beachy from Southeast Angels 15. Over. Bandits are now about 3 to 4 miles south of Beachy. You should see them in a minute in the dark sun of you. Hello, Hunter Leader. Hunter Leader, Flapper Control calling. Can you see them? Can you see them?
Aujourd'hui, donc, dans le sous-marin, nous recevons Thomas Zucchielli de l'IRESA, l'inter-réseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors, l'IRESA organise demain soir au Chabada une soirée Zik et Zoom pour promouvoir l'économie sociale et solidaire. On reviendra sur le programme dans une seconde partie d'interview, mais avant, si vous êtes d'accord, on va parler quand même économie sociale et solidaire. C'est un concept qu'on entend partout, mais c'est encore assez abstrait. Alors, comment est-ce que vous pourriez définir ce concept ?
Exactement. Donc, c'est un concept plutôt compliqué. Et pourtant, ce qu'il faut dire avant toute chose, c'est que ça représente 10% de l'économie française privée. Donc, ça représente aussi 10% des entreprises. Par exemple, dans le Maine-et-Loire, 3400 entreprises sont des entreprises d'économie sociale et solidaire, ce qui fait beaucoup, et 40 000 emplois derrière. Donc, l'économie sociale et solidaire, c'est pas quelque chose d'écologiste un peu farfelu, qui veulent changer le monde, tout ça de façon totalement irréaliste. Dans l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui vise à faire prendre conscience aux gens que le travail a un intérêt pour les autres. C'est-à-dire que chaque entreprise d'économie sociale et solidaire, c'est par exemple des associations, des coopératives ou des mutuelles, ont un intérêt collectif à la production. C'est-à-dire que chaque production doit bénéficier aux citoyens avant de bénéficier aux producteurs. L'idée, c'est que le vecteur économique permet justement d'entraîner cette création de production de richesses et d'intérêts collectifs.
Vous parliez de mutuelles, ça veut dire que ça peut recouvrir plein de domaines différents,
oui,
dont
exactement.
La banque, les assurances.
Oui, ouais, les banques, les assurances, les mutuelles, tout en fait peut être de l'économie sociale et solidaire. Un club sportif, c'est de l'économie sociale et solidaire. Une radio comme Radio Campus, c'est de l'économie sociale et solidaire. Une coopérative d'ouvriers qui fabrique, je ne sais pas, du fromage, c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire. Voilà.
La charte de l'économie sociale qui a été définie, ça a défini 5 critères. La libre adhésion, la lucrativité limitée, la gestion démocratique et participative, l'utilité collective et la mixité des financements. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place? Est-ce que c'est viable?
Alors, bien sûr que c'est viable, puisque je vous ai dit que ça représente déjà 10% de l'économie en France. Donc, c'est des choses qui sont déjà expérimentées un peu partout sur le territoire. C'est viable, puisque c'est des choses pas si compliquées que ça, en fait. L'économie capitaliste, pardon, nous fait penser que ce sont des choses qui ne peuvent pas avoir leur place dans l'économie, en fait. L'idée, pour nous, c'est de remettre l'humain au cœur des entreprises et au cœur de l'économie. Donc on part des besoins, je l'ai expliqué tout à l'heure, de l'intérêt collectif, l'intérêt général, mais on part aussi de la question des profits. C'est-à-dire que les profits que font les entreprises d'économie sociale et solidaire, elles servent pas à financer le capital et les actionnaires. Elles servent à être réinvesties dans l'entreprise et dans le territoire où lesquels on a tiré ce profit pour permettre encore une perpétuation de cet intérêt collectif général.
Alors l'IRESA, c'est 79 structures,
oui.
Adhérentes. Il y a quel type de structure dans ce réseau?
Alors il y a toutes les structures qu'on vient de citer. Par exemple, qu'est-ce que je peux avoir? Il y a la mutualité Anjou-Mayenne, qui est une des très grosses boîtes dans le Maine-et-Loire. Il y a aussi la SADEL pour ceux qui ont des parents profs, par exemple, ils connaissent bien. Il y a le Shabada, là où on va organiser notre soirée en tant qu'association culturelle. Le Quai aussi, il est partenaire de l'IRESA. Des entreprises aussi de services à domicile, de services à la personne. Et puis plein d'autres encore.
Alors vous le disiez, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% du PIB. Alors vous dites 10%, on pourrait dire aussi seulement 10%. Après tout, c'est 8,6% de l'ensemble des salariés de moins de 30 ans qui travaillent dans ce secteur, mais c'est encore des structures qu'on pourrait qualifier de fragiles.
Exactement, ouais, ce sont des structures fragiles parce que c'est un modèle qui est plus complexe un petit peu qu'une économie classique, quoi. Il faut de la volonté derrière pour mettre en place des entreprises de ce type.
Pour quelles raisons c'est plus complexe?
C'est-à-dire qu'il faut se poser des questions sur le fonctionnement de l'entreprise. Quand on crée une entreprise, il faut pas le faire à la légère. Il faut penser à l'humain d'abord. Comment les salariés et les personnes qui sont dans cette entreprise vont pouvoir participer à la gouvernance de l'entreprise. Dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, chaque personne est égale à une voix. Alors que dans les entreprises classiques, c'est en fonction du capital qu'on apporte qu'on a des voix et des pourcentages au conseil d'administration, par exemple.
Est-ce qu'une entreprise qui, à la base, ne fait pas partie de l'économie sociale et solidaire peut se convertir, entre guillemets?
Oui, exactement. Ça se fait souvent. Là, il y a une entreprise Relais pour l'emploi qui est passée coopérative de coopérateurs, finalement. En fait, ils ont changé leur statut et ils ont mis en place, justement, des mécanismes comme ça de gouvernance, de réinvestissement des profits, et puis ils ont défini un intérêt général à leur entreprise. C'est des choses assez simples, mais il faut juste y réfléchir.
Et l'IRESA, ça permet de le faire? Vous faites, enfin, c'est quoi votre rôle précis sur le territoire?
Alors, l'IRESA, le rôle, c'est de tout d'abord sensibiliser les gens à l'ESS, ce que je fais aujourd'hui, là, par exemple, devant nos auditeurs. Le rôle aussi, c'est d'être un centre de ressources pour les personnes, justement, qui ont envie de monter leur boîte, qu'elle soit grande ou petite, et qui, justement, veulent avoir des moyens plus au niveau du droit, au niveau économie, au niveau des statuts, pour mettre en place ces entreprises. Et l'IRESA est là pour les aider, pour les diriger vers tous les acteurs du territoire qui peuvent les aider.
Et est-ce que concrètement, ça peut être une solution à la crise ou à l'emploi des jeunes, si on parle aux auditeurs de Radio Campus Angers?
Alors exactement, les 10 dernières années, l'économie sociale et solidaire, le nombre d'emplois dans l'économie sociale et solidaire a grimpé de 23%, alors que dans le secteur classique, le nombre d'emplois n'a grimpé que de 7%. Donc on voit bien qu'il y a une force et un dynamisme qui est en train de se mettre au niveau de cette économie sociale et solidaire, et ça se voit en particulier en Anjou, 16% des entreprises par exemple en Anjou, donc c'est encore supérieur.
Depuis l'élection de François Hollande en 2012, il existe maintenant un ministère de l'économie sociale et solidaire avec Benoît Hamon à sa tête. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous?
Alors, ce que ça change, tout d'abord, c'est la reconnaissance, en fait. Parce que pendant longtemps, ces 10% de l'économie n'étaient pas reconnus dans les textes de loi, ou même au niveau des médias, ou même au niveau des hommes politiques. Finalement, là, on est en train d'institutionnaliser un secteur pour pouvoir ensuite le développer, avec le projet de loi, par exemple, sur la loi ESS qui va passer au Parlement.
Alors justement, cette loi cadre qui a été présentée à l'été dernier ouais, par Benoît Hamon, elle n'est pas du goût de tout le monde, même dans l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, nous personnellement, l'IRESA, on pense que c'est quand même un pas en avant pour justement l'institutionnalisation et la structuration de ce secteur. Le fait est de dire que des structures vont être créées grâce à cette loi qui vont permettre d'avoir des points relais un peu partout sur le territoire et de créer des zones où on va dynamiser justement les entreprises d'économie sociale et solidaire. C'est la question des pôles de territoire. Après, il peut y avoir des lacunes pour certains, parce que ça va pas forcément assez loin dans la reconnaissance des statuts, et ça va pas forcément assez loin dans la reconnaissance, par exemple, de la gouvernance, une voix égale une personne. Voilà, il y a des débats là-dessus.
Il y a quelque temps, nous avions interviewé Sylvie Meyer lors de son passage à Angers en novembre. Elle est animatrice d'Agir pour une économie équitable. D'ailleurs, économie équitable, économie sociale et solidaire, est-ce qu'on peut...
C'est dans la même mouvance, oui.
Alors, donc elle est aussi également ancienne députée européenne et membre du Parti communiste français. Et je lui avais posé cette question. Vous avez un discours très politisé, vous travaillez auprès du PCF, on entend dans vos mots, voilà, il y a un vrai champ lexical très, très ancré à gauche. Est-ce que l'économie équitable, c'est compatible avec une politique de droite? Est-ce que c'est uniquement compatible avec une politique à gauche, voire très à gauche?
Bon, je pense que on voit bien que pour le MEDEF, c'est incompatible avec son idéologie, qui est celle de l'actionnariat et du capitalisme. Donc, quelque part, c'est, je dirais, un des piliers de la possibilité d'une alternative. L'économie sociale et solidaire, c'est une pièce du puzzle que j'appellerais de dépassement du capitalisme. Pour ne pas dire anticapitaliste, parce que en fait, on part de ce qui existe pour aller plus loin, et c'est pas l'abolition comme dans l'international, hein, c'est plus ça. On fait pas table rase du passé, mais on construit sur le passé quelque chose de nouveau, dans lequel surtout, il s'agit de démocratie.
Thomas Zucchelli, vous êtes également membre du Front de Gauche. Je vais vous poser cette même question, est-ce que c'est compatible l'économie sociale et solidaire est une politique de droite ou est-ce que c'est une politique de gauche?
Je pense qu'il ne faut pas cliver a priori. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire venir les gens à nos idées finalement, aux idées de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, à l'IRESA, il n'y a pas que des gens de gauche, il y a des gens de droite que je représente aussi ce soir. L'idée, c'est de dire, l'économie, nous, on en fait un bien commun. de tous. C'est-à-dire, on met l'humain au cœur de tout. À partir de là, on peut être de droite ou de gauche, tant qu'on met cette valeur au centre de tout, c'est le but du jeu. Et puis, c'est de montrer, comme je l'ai fait tout à l'heure, que ce type d'entreprise peut être viable, ce type d'entreprise peut être construite, que c'est pas simplement un rêve, justement, de personnes d'ultra-gauche, on va dire, qui rêvent un petit peu. Non, on peut être de gauche ancré dans la réalité, on peut être de droite ancré dans la réalité, et on peut tous désirer remettre l'humain au cœur de l'entreprise. L'idée, c'est de penser le profit économique en lien avec le profit sociétal, finalement.
Et concrètement, comment est-ce que les auditeurs de Radio Campus Angers, même s'ils sont encore étudiants, peuvent participer à cette mouvance d'économie sociale et solidaire ? Est-ce que c'est possible ?
Alors en fait, la plupart de nos auditeurs, je suppose, ils participent déjà dans leur vie de tous les jours. Rien qu'en étudiant, en écoutant Radio Campus, ils participent déjà à ce phénomène de sensibilisation à l'économie sociale et solidaire. Mais souvent, plein d'étudiants participent déjà à des clubs ou des associations dans lesquelles ils sont intégrés et dans lesquelles ils participent bénévolement la plupart du temps, pour mettre en avant des idées, mettre en avant des projets qui leur tiennent à cœur. Mais après, ils peuvent aussi s'engager dans le monde de l'entreprise, dans l'économie sociale et solidaire, bien sûr.
On va marquer une petite pause dans cette interview puisqu'il est 19h30 et comme tous les lundis à 19h30, on va retrouver notre chroniqueuse Éco, une toute autre économie aujourd'hui, Anne-Marie, puisque tu nous parles des agences de notation.
Tout à fait. Vendredi 24 janvier, Moody's a maintenu la note de la France à AA1. La deuxième meilleure note sur une échelle de 20. Vous avez sans doute déjà entendu ces noms, Moody's, Standard & Poor's ou encore Fitch. Ce sont toutes des agences de notation. Vous retrouvez souvent ces termes un peu sombres dans les articles financiers, tout en vous disant c'est qui ce Moody ou ce Fitch qui se permet de mettre une bonne raclée à la France juste en lui donnant une note. Tout ça parce que leur influence sur les marchés et sur les entreprises est considérable.
Et alors pourquoi elles ont un tel rôle et un tel pouvoir ?
Ce sont des agences de notation financière, c'est-à-dire qu'elles sont spécialisées dans ce que l'on nomme en anglais le rating. Pour faire simple, elles évaluent le risque de solvabilité des emprunteurs. Ce sont des entreprises privées ou publiques, des États, des collectivités locales, comme les départements, les régions ou les communes.
Et quand tu parles de risque de solvabilité des emprunteurs, qu'est-ce que ça veut dire ?
Les agences de rating mesurent le risque précis de non-remboursement des dettes que présente l'emprunteur. Là, si vous voulez étoffer votre lexique financier, retenez qu'on appelle aussi ce risque la qualité de la signature. Du coup, en fonction de la capacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes, l'agence de rating donne une note. Elles ont des systèmes de notation différentes, mais ont des similarités. La meilleure note reste le fameux triple A. L'emprunteur présente un risque quasi nul et la qualité de la signature est la meilleure possible. Puis le double A, qui est à peu de choses près similaire. En troisième place, le simple A, qui montre la bonne solvabilité des emprunteurs, mais qu'un risque est peut-être présent. La plus mauvaise note étant le C pour Moody's et le D pour Standard & Poor's. Mais le C et le D de chacune de ces agences veulent dire exactement la même chose. Il y a une situation de faillite de l'emprunteur.
Et quel est l'impact de ces notes ?
Pour les emprunteurs qui cherchent donc à financer des opérations, une mauvaise note, ça peut être terrible. C'est comme si quelqu'un vous avait dénoncé auprès de votre banquier comme quoi vous n'êtes peut-être pas capable de rembourser votre emprunt. Et que l'information soit vérifiée ou non, votre taux d'intérêt augmentera. C'est la prime de risque. Du coup, vous aurez quelques difficultés à mettre sur pied un financement. À l'inverse, une bonne note signifie un taux d'intérêt faible.
En fait, plus la note est élevée, plus l'emprunteur trouve des fonds bon marché, mais une note, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle évolue dans le temps.
Oui, et c'est pourquoi les investisseurs institutionnels restent attentifs aux modifications de notes et aux mises sous surveillance. Comme Moody's, qui surveille actuellement la France, l'agence n'exclut pas de baisser la note française à moyen terme, comme elle avait pu le faire en novembre 2012. Elle avait revu à la baisse le triple A de la France. Les raisons étaient un manque de compétitivité et une situation budgétaire incertaine. Aujourd'hui, les mêmes raisons sont évoquées. Je cite « Le recul continu de la compétitivité de l'économie française et le risque d'une dégradation accrue de la solidité financière du pays peuvent entraîner une revue à la baisse de la note. Selon Moody's, la dette française pourrait peser en fin d'année plus de 95% du produit intérieur brut. Bref, pour Moody's, le pacte de compétitivité ou le pacte de responsabilité qui a été étudié aujourd'hui par le Premier ministre et la baisse des dépenses publiques annoncée par François Hollande le 14 janvier ne suffiront peut-être pas à maintenir le double A de la France.
Merci Anne-Marie d'étoffer chaque semaine notre vocabulaire économique. Nous sommes toujours dans le sous-marin sur Radio Campus Angers en compagnie de Thomas Zucchielli de l'Interréseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou. Peut-être une remarque sur cette chronique sur les agences de notation.
Exactement, on vient de parler des agences de notation et de leur importance dans le financement des économies, de l'économie de notre pays. Pour l'économie sociale et solidaire, on est en train de miser sur un nouveau mode de financement qui s'appelle le crowdfunding. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est par exemple sur le principe de My Major Company, le site internet où on finance des artistes, ou KissKissBankBank, voilà. Mais Major Company, c'est du financement d'artistes. KissKissBankBank, ça peut être des financements directement de projets de personnes plutôt sociales et solidaires, la plupart du temps d'ailleurs. C'est-à-dire que chacun d'entre nous peut être amené, peut se dire, tiens, je vais participer en donnant 20 euros, par exemple, à tel projet d'un entrepreneur qui veut monter sa boîte, et je vais retirer derrière, c'est pas un investissement financier, je vais pas en retirer des bénéfices personnels, mais je vais en retirer, par exemple, il va nous donner 10 miches de pain si c'est un boulanger, ou des choses comme ça. Donc on essaye de montrer que les gens peuvent être solidaires, justement, de la création d'entreprises sans en retirer forcément un bénéfice financier derrière.
Alors, vous êtes là aussi ce soir, non pas que pour nous parler d'économie sociale et solidaire, mais aussi pour présenter la soirée de demain soir, qui en fait est quand même dans ce thème-là, bien sûr. C'est la soirée Zik et Zoom au Shabada, qui est organisée par des étudiants de l'UCO et de l'ESCA, si je ne me trompe
Exactement.
Pas. C'est la septième édition de Zik et Zoom.
Édition, oui.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce concept ? Il y a à la fois des ateliers, il y a un concert, et puis il y a des offres d'emploi et de stages.
Exactement. Donc l'idée, c'est de dire que les jeunes, les conférences, par exemple, les conférences débats, ça n'intéresse plus forcément tout le monde, en tout cas. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas parler de l'économie sociale et solidaire, tout en étant dans un cadre festif ? Donc le Chabalet nous a semblé le lieu le plus approprié sur Angers, pour faire ce genre de soirée, en ayant un temps, un premier temps sur tout ce qui est plutôt sensibilisation justement à l'ESS, des mises en situation, des choses un peu sérieuses comme des offres d'emploi, de stage, des rencontres avec les professionnels, et puis une deuxième partie avec un concert et puis un buffet, voilà.
Alors il y aura aussi des ateliers, il me semble, enfin des échanges dans la peau d'un entrepreneur social et solidaire.
Oui, pas solitaire.
L'ESS, c'est dans l'air, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces ateliers, en quoi ça va consister ?
Alors on va avoir trois ateliers qui vont tourner de 18 à 20 heures à peu près. Le premier espace, c'est l'espace central. Finalement, ça sera dans la grande salle du Shabada, pour ceux qui connaissent. Un espace où il y aura des offres d'emploi, de stage, de bénévoles et de volontariat, service civique entre parenthèses, pour les jeunes qui viendront assister à cette soirée.
Quel type d'entreprises sont là, par exemple ?
Des entreprises membres du réseau de l'IRESA, en fait, les 80 structures dont on parlait tout à l'heure. Et directement, donc, en plus de ces offres, des responsables des structures seront là pour présenter leur offre auprès des personnes. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau et novateur finalement. C'est les patrons des entreprises qui vont venir chercher des salariés, ou alors qui vont discuter tout simplement de la production de leur entreprise, de la manière dont ils fonctionnent. Donc autour d'un verre de jus de pomme du jardin de cocagne.
Une
entreprise sociale et solidaire qui fait partie du réseau. Voilà.
Et le concert, un mot sur le concert, Yes Indians ?
Les Yes Indians, donc c'est un nouveau. C'est un petit groupe en juin de jeunes qui s'est monté il y a déjà 2-3 ans et qui est en train de commencer à percer sur Angers. Donc ça va être leur première grande scène. Donc on les met en avant parce que, en particulier, le meneur du groupe avait déjà fait un service d'unicité l'année dernière, un service civique. Et donc il est déjà sensibilisé lui aussi à cette question de l'économie sociale et solidaire. C'est quelque chose qu'il veut mettre en avant, et c'est aussi pour ça qu'on les a choisis.
Si c'est la 7e édition, ça veut dire que ça fonctionne, j'imagine ?
Ouais, exactement. L'année dernière, il y avait déjà 350 personnes. Donc on va essayer d'en avoir encore plus cette année. L'idée, c'est qu'il y a de tout pour tout le monde. Des gens qui cherchent de l'emploi, des gens qui cherchent juste de l'information, où il y aura des séances justement d'information, des petites vidéos régulièrement. Il y aura aussi un espace entreprendre en ESS pour ceux justement qui veulent créer leur entreprise et qui se disent mais comment on fait pour créer une entreprise d'économie sociale et solidaire. Donc il y aura Françoise qui va vous aider à vous diriger et à vous donner des contacts pour cela.
Les années précédentes, les années passées, il y avait des gens qui venaient sans connaître du tout le concept d'économie sociale et solidaire.
Et oui, parce que justement, on les attire dans nos filets grâce au groupe de musique un petit peu. Donc finalement, on vient voir le concert des Yes Indians et puis venez une demi-heure avant découvrir ce que c'est l'économie sociale et solidaire. Il y en a pour les deux types de goûts, en fait. On fait découvrir les Yes Indians à ceux qui sont là pour l'économie sociale et solidaire et inversement.
Alors ça se passe demain soir au Shabada de 18h à 21h, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Et c'est gratuit.
C'est gratuit, bien sûr.
Merci beaucoup, Thomas Zucchilli, d'avoir accepté notre invitation dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Tout de suite, on va marquer une pause musicale avec Andrew Bird, I Want I.
Yourself, give yourself a hand, the hand is yours, and the eye that eyes itself is your eye, and the ear that hears itself is too, and you're getting too close, you're getting too close, you're getting too close to your souls, you've done the impossible. Took yourself apart, made yourself vulnerable. No one can break your heart, so you break it yourself. Bring in your own, break it yourself. Bring in your own, break it yourself. Yourself, give yourself a hand, the hand is yours, and you go ahead and bring it out, go ahead and stretch it out. Could use some help. Bring in your heart, break in the shell. Bring in your heart, break in the shell. Bring in your heart, bring in your heart, bring in your heart. Go ahead and feel good, let yourself. Give yourself a hand, the hand is yours. And you go ahead.
Vous êtes dans le sous-marin sur Radio Campus Angers et puisque nous sommes lundi soir, c'est le débrief sportif du week-end. Charlotte a quitté le navire cette semaine, mais voilà Julien pour le traditionnel journal des sports, donc je vais t'accompagner, ne t'inquiète pas. Charlotte et Julien n'ont pas chômé ce week-end, nos deux sportifs avaient les yeux rivés devant leur poste de télévision avec un grand week-end, ou plutôt un dimanche entièrement dédié aux finales. Entre la finale de l'Open d'Australie à 8h30, celle du championnat d'Europe masculin de handball à 17h30 et la finale de la Coupe de France de hockey sur glace 15h, leur week-end était chargé.
Oui, ça c'est le moins que l'on puisse dire.
Bon allez, on commence par le tennis avec un Nadal qui était un peu diminué hier matin.
Il fallait se lever tôt hier. Nadal affrontait dans le cadre de l'Open d'Australie l'autre Suisse, Stanislas Wawrinka. Wawrinka est numéro 8 au classement mondial. Donc, à première vue et selon toute statistique, Nadal partait gagnant.
Seulement voilà, on en voit paître les statistiques. Que dis-je, on les frappe du revers et on admet que dans le sport, rien n'est gagné d'avance.
Oui, même si, il faut le dire, Nadal s'est blessé pendant le deuxième set, ce qui a fortement diminué ses capacités physiques. On a même cru que Nadal allait s'arrêter, mais au bord des larmes, il s'est battu jusqu'au bout comme le grand joueur qu'il est. Mais ça n'a pas été suffisant. Résultat de cette finale, défaite de Nadal en 4-7, avec une première victoire en Grand Chelem pour Wawrinka contre 13 pour Nadal.
En tout cas, on félicite Wawrinka parce qu'il fallait quand même le faire et on souhaite un bon rétablissement à Nadal. Bon, on passe maintenant à une autre finale, celle du handball.
Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on est fier d'être français ? Quelle est belle cette victoire ! 4 fois champion du monde, 2 fois champion olympique et maintenant 3 fois champion d'Europe.
Ils affrontaient hier le Danemark au Danemark, c'est dire si la tâche n'était pas simple.
Seulement voilà, les Français se sont baladés. Ils ont prouvé que les experts, c'était eux, que rien au monde ne pouvait les arrêter. 23-16 à la mi-temps, 41-32 à la fin du match.
9 points d'écart, c'est énorme au handball.
Avec une bonne entame de match et des arrêts de notre Titi national, le titre était dès le début à portée de main. Ils ont continué comme ça tout le match, ne laissant pas les Danois prendre le dessus et jouant tout simplement le handball que l'on aime. C'était un match parfait, marqué par des Mickaël Guigou, Lucas Ballot et Valentin Porte des grands soirs.
Oui, du handball comme on l'aime, avec des gestes techniques, des arrêts et des buts magnifiques, comme celui d'Abalo qui de dos arrive quand même à marquer.
En tout cas, nous voilà champions d'Europe pour la troisième fois de notre histoire. Après les Bargeaux, les costauds et les experts, voilà les indestructibles. Ce qui est plutôt bon présage pour l'avenir.
Allez, on passe à une autre finale. Et quelle finale ? C'était le grand rendez-vous sportif du week-end. Angevin, la finale de la Coupe de France de hockey sur glace qui opposait hier nos Ducs aux Dragons de Rouen.
La patinoire du Palais Omnisports de Paris-Bercy était pleine à craquer pour cette rencontre qui opposait les meilleurs ennemis du hockey français. 1500 Angevins avaient fait le déplacement avec le club pour supporter les Ducs. L'année dernière, les Angevins, pourtant favori, s'était incliné en finale face à Briançon. C'est avec le statut d'outsider qu'il se présentait hier face à Rouen, en tête du classement du championnat et récent vainqueur de la Coupe de la Ligue.
La tâche ne s'annonçait donc pas simple. Les joueurs de Simon Lacroix ont idéalement entamé la rencontre en ouvrant le score par Mickaël Busteau au bout de seulement 3 minutes de jeu.
2 minutes plus tard, c'est notre attaquant canadien Jonathan Bellemare qui profite d'une supériorité numérique pour doubler la marque. Après ce départ canon de nos Ducs ont su être solides en défense pour tenir ce score de 2-0 jusqu'à la fin du second tiers-temps. En troisième tiers, les Dragons butaient toujours sur un Florian Hardy magique dans les cages. Et c'est Fortier qui marqua un troisième but pour Angers. 3-0, un score inespéré en début de rencontre.
Et ce n'est pas fini, en fin de match, les Rouennais ont tenté le tout pour le tout en sortant leur gardien pour avoir un joueur de plus en attaque. Brian Henderson ne se fit donc pas prier pour inscrire de sa moitié du terrain le quatrième but dans une cage vide.
Victoire 4-0 de nos Ducs qui remportent là le deuxième trophée de leur histoire après avoir déjà gagné la Coupe de France en 2007. Mention spéciale à Florian Hardy, notre gardien, élu meilleur joueur de la finale après sa performance titanesque. Après 3 finales perdues l'an dernier, ce titre fait vraiment du bien au club. On espère que nos Ducs vont rester sur cette dynamique pour briller en championnat.
Passons du hockey sur glace au hockey sur roulette avec nos Hawks d'Angers qui jouaient ce week-end contre les Spiders de Rouen.
Et décidément, Angevin et Rouennais ne se sont pas lâchés d'un patin ce week-end. Défaite des Hawks sur le score de 6-5. Bon, on veut bien leur laisser ce match de championnat. Nous, on a gagné la Coupe de France.
Actu basket maintenant avec l'ABC qui jouait face à Tarbes vendredi.
Victoire 99-92 de nos basketteurs. Grosse performance collective. On note les cartons offensifs de Richie Gordon avec 23 points et de Carlos Cherry avec 27 points. L'ABC est deuxième au classement de National 1 avec un point de retard sur Monaco. Nous sommes donc toujours en course pour l'accession en Pro B.
Et qu'ont fait les filles de l'UFAB?
Les filles jouaient, elles, un quart de finale de Coupe de France face à Toulouse. Malheureusement, elles n'iront pas plus loin dans cette compétition, puisqu'elles se sont inclinées 70 à 64. On les félicite quand même pour leur beau parcours. Elles peuvent maintenant se concentrer sur l'objectif maintien en Ligue féminine. Prochaine rencontre samedi prochain à Jean-Bouin face à Basketland.
Allez, c'est tout pour ce week-end.
Et c'est déjà pas mal.
Merci Julien, on embrasse Charlotte qui sera sans doute là la semaine prochaine ou au moins la semaine suivante. En cette fin d'émission, l'agenda est bien léger, le début de semaine s'annonce calme. Je n'ai qu'un conseil sorti à vous soumettre, ça se passe au foyer des jeunes travailleurs David Danger. Il s'agit d'un labo de citoyenneté en trois étapes. Ce soir, venez livrer votre expérience et vos colères du moment pour répondre à la question « Qu'est-ce que vous voudriez voir changer en France ?» Le but de ces ateliers aboutissent que ces ateliers aboutissent le 10 février prochain à une mise en scène théâtralisée. Ce soir, c'était David derrière les boutons et avec moi en studio Victor, Baptiste, Anne-Marie et Julien. On va relâcher l'immersion. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site internet le www.radiocampusangers.com ou demain à 13h sur le 103FM. À 21h, vous retrouvez Misty, l'émission de jazz de Radio Campus Angers. Avant de vous quitter totalement, on vous laisse écouter la bulle sonore. Vendredi dernier, Denis Podalydès était dans le sous-marin spécial Premier Plan. L'intégralité de l'émission est bien sûr à réécouter sur notre site internet. En voici une petite partie pour le plaisir, comme dirait Herbert Léonard. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. On se retrouve demain à 19h. Très bonne soirée sur Campus. Allez, bisous. En quoi votre travail au cinéma et au théâtre se nourrissent l'un et l'autre ?
C'est à la fois deux expériences particulières, différentes, et elles se nouent très bien. Je ne fais pas exactement, je théorise pas du tout la différence. Au théâtre, j'ai le sentiment que c'est un peu ma base, mon port d'attache, la comédie française, les rôles que je joue, qui sont souvent la plupart du temps plus grands que les rôles que je peux jouer au cinéma. C'est curieux parce que je crois que j'ai tourné beaucoup plus de films que je n'ai joué de pièces. Mais à l'arrivée, j'ai plus l'impression de passer ma vie sur des planches plutôt que sur un plateau. Et le plateau de cinéma est souvent comme une sorte de vacances, de grandes vacances que je prends par rapport au théâtre, où je suis très heureux, libéré des contraintes des planches. Et je trouve les contraintes du cinéma et qui à ce moment-là m'apparaissent au contraire très très heureuses. Ça demande moins de travail en temps, le cinéma.
Alors, vous jouez justement le cas de Jekyll, on en parlait au quai. Dans cette pièce, vous êtes seul en scène pendant plus d'une heure et vous alternez la voix de Hyde et de Jekyll. Votre corps, votre voix, votre visage se transforment tout au long du texte et de la pièce. C'est une vraie performance. Comment est-ce que vous avez abordé ce texte ?
Ce texte, c'est un choix de ma part. J'avais relu ce roman qui m'avait beaucoup, beaucoup touché quand je l'avais lu. La première fois, quand j'avais découvert les films, c'est aussi, curieusement, un spectacle, une pièce, très liée au cinéma. C'est par le cinéma que j'ai découvert ce roman, d'ailleurs. Et c'est un personnage qui me hantait, comme je crois il hante la plupart des acteurs. Tous les acteurs veulent jouer l'un et l'autre, le gentil, le méchant, l'envers et l'endroit, la part obscure et la part solaire. Et j'avais demandé à mon amie Christine Montalbetti, qui est romancière, qui est une amie de très très longue date, d'adapter le dernier chapitre du roman dans le but d'en faire un spectacle. Et puis ensuite j'ai demandé à mes deux amis Emmanuel Bourdieu et Eric Ruff de m'aider à le mettre en scène. Et c'est devenu comme un autoportrait, une pièce où j'ai l'impression de me donner, même de me retourner, comme un gant, de donner l'envers et l'endroit, enfin comme le raconte l'histoire. C'est une expérience extrêmement intense, de plaisir théâtral, de plaisir de jeu, comme j'en connais parfois d'autres, mais qui a cette saveur particulière puisqu'elle vient vraiment de mon propre désir. Alors que souvent, comme acteur, je soumets mon propre désir au désir de l'autre, au désir du metteur en scène.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.